commencer. Non, je vous fais grâce de l'introduction, mais je suis vraiment content. Ça fait 98 jours, donc on est déjà rendu à la deuxième diapositive pour ceux qui sont à la maison. Et je suis vraiment content qu'on puisse se revoir à nouveau. J'ai hâte qu'on se revoie tous ensemble, tous réunis ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces 98 jours? Ça en a coulé de l'eau sous les ponts, là. 98 jours. Une chose que je peux vous assurer, c'est que pendant ces 98 jours, on a vécu ça de façon bien différente, chacun d'entre nous. Certains ont peut-être été, comme on appelle, scotchés à leur TV, plugués sur les nouvelles, quasiment 24 heures sur 24, c'était tellement, il y a tout le temps quelque chose qui se passait, tu avais des chaînes que c'était juste la COVID pratiquement toute la journée, surtout les chaînes de nouvelles, et c'était presque juste ça qu'on entendait aux nouvelles, finalement, il n'y avait plus d'autres places pour les autres nouvelles qui se passaient, mais ça, pour certains d'entre nous, peut-être ça a été la façon qu'ils ont vécu leur confinement, donc accrochés à toutes leurs nouvelles, alors que pour d'autres, ça peut-être été complètement le contraire. C'est trop déprimant, c'est trop... alarmiste, on pourrait dire, donc moi, pas capable, moi je n'écoute pas de nouvelles, je n'écoute pas ce qui se passe. Donc, imaginez-vous, c'est la différence qu'aujourd'hui, ces deux personnes-là. Certains ont probablement pris les consignes du gouvernement bien au sérieux, les ont suivies à la lettre, les ont toutes respectées, alors que d'autres, c'est-tu exagéré? Moi, pas question que je porte un masque, pas question que j'aille faire l'épicerie avec des flèches, puis les. Probablement que ça a été bien différent, mais au niveau de l'Église, présentement, pendant ce temps-là, puis on a monté, et merci en passant, on a un comité de déconfinement. On a Suzy, on a Yvon, Pierre, Carmen qui en font partie, on a Gilles, on a Sylvain, Ginette aussi. Donc, merci au comité d'avoir préparé tout ce que vous avez vu, les pancartes, toutes les consignes. Je pense que si un inspecteur arriverait, je pense qu'on peut leur démontrer qu'on est de bonne foi, qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On a pris les mesures nécessaires, mais pour certains, ils vont trouver que l'Église exagère, là, vous en avez fait ben trop, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas vivre une vie d'Église comme ça, puis pour d'autres, ça va être le contraire. Ils vont dire, non, on n'en fait pas assez, on expose les gens, c'est pas correct de la part d'une Église, c'est certain qu'on va avoir les deux. J'ai déjà eu les deux commentaires extrêmes dans les deux sens. Un dit que c'est pas assez, l'autre dit que c'est trop, puis je pense que le comité a quand même fait un bon travail pour qu'on respecte tout, sans en mettre plus que le gouvernement en demande. Donc, effectivement, imaginez-vous, là, ça fait 98 jours que vous marinez, que vous trempez dans ce bain-là, qui est probablement bien différent pour chacun d'entre nous ici. Alors, prenez ces personnes-là, puis ramenez-les dans une salle de culte pour louer Dieu ensemble. Donc, certainement, il va quelque part y avoir des frictions. Il va y avoir des désaccords. Puis c'est pour ça que ce matin, j'ai choisi de tourner avec vous dans le texte de Romains, chapitre 14, versets 1 à 4. On fait deux pierres d'un coup, on reste dans la série de serviteurs romains purs, dans Romains. Mais en même temps, on prend un texte qui va vraiment s'adapter à ce qu'on vit ce matin ensemble. Il est très pertinent pour les circonstances actuelles que nous vivons. Mais avant, histoire de rester fidèle à la coutume qu'on vient d'établir avec tous nos enfants à la maison, j'ai pensé mettre quelques images, mais pour faire changement et pour passer un petit peu à autre chose, j'ai dit on va prendre un autre thème ce matin, on va parler de la fête des Pères. Donc, j'ai quatre images par rapport à la fête des Pères pour peut-être rire un petit peu ensemble ce matin. Première, c'est par rapport au rôle de papa. Hein? Donc, hein, iPhone, iPod, iPad, puis le papa, lui, ouais, IP. C'est ça, hein? Effectivement. Des fois, ça fait beaucoup. Les jeunes l'apprécient, mais papa trouve que ça coûte cher. Hein? Toutes ces bébelles-là, ça coûte très cher. Maintenant, hein, quel est le plus beau cadeau pour papa? Regardez celle-là. Hein? Le jeune, ça a l'air, il est très pauvre, comme l'image nous le montre, avec sa boîte de bois. L'autre a dit, quel stupide cadeau! Hein? Puis finalement, oui, c'était pour pouvoir être assez haut pour faire un beau câlin à son papa. Donc, je trouvais drôle, celle-là. Ah, mais la prochaine. Le cadeau que tous les papas ont dû demander, j'en suis certain, hein, c'est celui-là. Hein? Les pantoufles en pain baguette. Non, effectivement, personne n'a demandé ça, mais je le trouvais tellement drôle. Je trouvais ça cocasse et les boulangers se sont surpassés. Et la dernière, vous savez, des fois, on voit la SPCA, on se trouve un bel animal, un beau petit chien, tout mignon, hein? Puis quand il arrive 2 ans plus tard, on se demande si c'est pas un ours polaire, finalement, qu'on a adopté. Le petit petit, il est plus petit, là. N'est-ce pas? Ça, c'est un peu comme des cadeaux surprises, hein? Vous avez un sac, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu ça, des fois, la SPCA, là, des fois, ça ressemble à un chien de race, puis des fois, non, ça ne l'est pas non plus. Donc, alors, bonne fête des pères à tous les papas, mais je dirais aussi, bonne fête des pères à tous les nouveaux grands-papas. Hein, on en a deux nouveaux grands-papas avec nous ce matin. Donc, bonne fête des grands-papas, vous autres aussi. Vous n'êtes pas juste papa, vous êtes rendu à l'autre étape, là. Mais, Yvon-Pierre m'a devancé un petit peu, mais ça en fait beaucoup de raisons de se réjouir ce matin, hein, à la fête des pères. Hier, savez-vous que c'était la journée la plus longue de l'année? 15h40 d'ensoleillement hier. Juste du soleil, 15h40. Il faisait chaud pour travailler dehors. Tu avais besoin de la crème solaire pas à peu près. On a travaillé une bonne partie de la journée, quasiment toute la journée, moi, puis Suzy dehors. C'était pas mal chaud, puis on était au gros soleil. Donc, oui, effectivement, l'été est arrivé. Enfin, bon, évidemment, elle nous a frappé comme une brique en plein front. Elle a dit que ce matin, c'était pas pire avec les ventilateurs. Là, même, il y avait un petit froid, là. Mais ça, je suis tout seul, là. Mais, oui, effectivement, il annonce encore 32 cet après-midi. Donc, c'est vraiment l'été. Donc, j'aimerais qu'on lise notre texte ensemble. Donc, on va tourner dans Romains, chapitre 14, versets 1 à 4. Pour ça, j'ai beaucoup d'allergies présentement, donc si je dois moucher un moment donné ou quelque chose, j'ai pris des réactines, mais je n'ai pas la COVID, rassurez-vous, c'est un cas d'allergie, non pas un COVID. Donc, Romains 14, verset 1, pas tout de suite. Moi, je pense que j'ai oublié d'en tourner une. C'est ça, non, c'est juste pour vous dire bonne fête des pères. Donc, notre texte, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Vous me voyez venir, là? « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On va se courber avant d'entamer l'étude de ce texte. Eh bien oui, Seigneur, on veut te remercier encore pour tes Écritures. Moi, je te remercie particulièrement de ce privilège qu'on a de recommencer les rencontres, de pouvoir enfin se réunir et que Seigneur, je n'ai pas à prêcher devant une caméra, mais avec des personnes, des vraies personnes vivantes, Seigneur, devant moi. Et Seigneur, certainement, on a besoin ce matin que tu nous éclaires, que ton ton esprit nous anime pour qu'on comprenne la richesse de ce passage-là, mais surtout, comment ça peut s'appliquer présentement dans notre contexte qu'on vit aujourd'hui, le 21 juin 2020, Seigneur. Donc, aide-moi, utilise-moi dans ta grâce, Seigneur Dieu, et que ton nom soit glorifié en Jésus. Amen. Donc, juste avant ce texte-là, puis on n'a pas fait l'étude par exposition des chapitres avant, mais au chapitre 13, Paul est en train de mettre en place justement son enseignement en expliquant que l'amour mutuel, hein, ça découle justement de cette grâce que Dieu nous a faite, qu'aujourd'hui on peut s'aimer mutuellement les uns les autres. Puis cet amour-là va avoir bien des répercussions dans nos vies, bien des conséquences sur notre relation avec les autres. Et le texte de ce matin, j'en ai tiré cinq conséquences, si on veut, ou répercussions de l'amour qu'on a les uns pour les autres, à cause qu'on est maintenant sous le régime de la grâce. Donc, parce que nous avons connu la grâce de Dieu, nous sommes maintenant capables de faire bon accueil à l'autre. C'est quelque chose quand même de faire un bon accueil à l'autre. Imaginez-vous que les personnes suivantes s'approchent de vous. Lui, à peu près tout ce qu'on peut imaginer, là, du tatou. Il y a du stretching dans les oreilles, il y a des implants au-dessus des yeux, la langue a été même avec une petite chirurgie pour faire une langue de serpent. Mais imaginez cette personne qui s'approche de vous. Est-ce que ce serait naturel de faire bon accueil à une personne comme ça? Des fois non. Des fois, peut-être qu'on est rendu là, mais des fois, non. La suivante. Personne SDF. Hein? Est-ce qu'on est capable de faire un bon accueil à une personne? Ici, heureusement, sur la photo, on n'a pas l'odeur, mais souvent, l'odeur est très intense aussi. Et des fois, ça peut être difficile pour nous de faire un bon accueil à ces personnes-là. Et le prochain, je vous ai averti tout de suite, ça va faire mal, peut-être les cœurs sensibles, s'abstenir. Est-ce qu'on serait capable de faire un bon accueil à cette personne-là? Et ça, là, c'est quelque chose quand même, là. Il y a des limites, des fois, à ce qu'on est capable de tolérer ou d'accepter. Alors, vous me voyez venir, hein? Ce qui fait qu'une personne va nous repousser ou qu'on ne lui fera pas un bon accueil, souvent, c'est la différence. Quand la personne est différente de nous ou qu'elle a des convictions différentes des nôtres, souvent, ça va être une des raisons pour lesquels on ne sera pas porté à faire un bon accueil. Et comme on l'a dit, la grâce de Dieu dans nos vies nous aide à passer par-dessus ça maintenant. Donc, après 98 jours hein, passés, comme on l'a vu, dans des contextes bien différents, il est possible qu'un fossé se soit creusé entre nous, entre deux personnes qui sont peut-être assises à 2 mètres, mais près l'une de l'autre, présentement. C'est possible qu'entre vous et votre voisin, il y ait un fossé qui soit creusé au niveau, pas nécessairement au niveau d'un péché, pas nécessairement au niveau d'une fausse doctrine, mais justement au niveau d'une conviction par rapport, exemple, disons, par rapport au port du masque, comme on a ici, là, sur l'image. Donc, le fait que nous ayons été accueillis par Dieu, malgré le fait que nous soyons déchus hein, dans notre état, que nous soyons même désagréables dans notre façon de vivre pour Dieu, même incompatibles avec sa sainteté, puis que malgré tout ça, Dieu nous a quand même accueillis. Mais ça nous aide, nous, maintenant, à pouvoir faire accueil à des personnes qui sont peut-être comme ça, pour nous. Donc, qui qui sont dans un autre contexte que nous, mais qui sont enfants de Dieu, parce que le texte ici parle d'enfants de Dieu, qui, par contre, ont une foi peut-être plus faible que la nôtre. C'est ici le contexte, qui est plus faible dans la foi, nous dit le verset 1 de notre texte. Mais, vous savez quoi? Qui est celui qui est le plus faible dans la foi? C'est qui celui qui est le plus faible dans la foi? Habituellement, c'est jamais nous autres, c'est toujours l'autre. Hein? Celui qui va faire une distinction, exemple, prenons juste l'exemple du vin, de boire du vin. Celui qui va boire du vin va trouver que celui qui n'en boit pas, il est plus faible que lui. Puis celui qui ne prend pas de vin va trouver que celui qui boit du vin, il est plus faible que lui. Habituellement, c'est ça. Je n'irai pas dans les détails parce que ce n'est pas notre sujet ce matin, mais la personne qui a une conviction différente de la nôtre, habituellement, c'est celle-là qu'on va penser qui est la plus faible. Ce n'est pas nécessairement ce que les Écritures disent. Les Écritures l'expliquent clairement dans certains cas, dont l'usage pour les viandes sacrifiées aux idoles et tout ça. Mais c'est la façon qu'on le voit nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsqu'on a une conviction, ceux qui ont la même conviction que nous sont plus forts, sont plus fermes dans leur foi. Ce n'est pas nécessairement ce que le texte dit. Donc, on va juste s'arrêter pour ce matin, puis de réaliser qu'on est appelé à faire un bon accueil de ceux qui ont des convictions différentes des nôtres, mais qui ne sont ni des péchés, ni des fausses doctrines, évidemment. Deuxièmement, parce que nous avons connu la grâce de Dieu, nous sommes maintenant capables de ne pas discuter les opinions de l'autre. C'est la fin du verset 1. Vous savez qu'il y a toute une différence entre discuter puis partager son opinion. Okay? Je peux partager la façon que je le vois avec quelqu'un, mais si je ne veux pas discuter, je vais écouter ce qu'il a à me dire après, puis je ne vais pas essayer de détruire ce que lui croit en démontrant que ce que je crois, moi, c'est supérieur à ce que lui croit. Donc ici, Paul nous invite à, oui, peut-être partager nos opinions, mais de ne pas les discuter, de ne pas essayer de détruire celles de l'autre. Et il y a là tout un effort d'humilité de notre part d'accepter que l'opinion de l'autre peut être tout aussi valable que la mienne. Il faut juste accepter à ce moment-là qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas le même contexte que l'autre à côté de nous. Laissez-moi maintenant trouver un exemple. Il faudra se trouver un exemple qui soit concret, qu'on puisse vivre présentement. Ce ne sera pas facile. Attendez un petit peu. OK, j'ai une idée. Okay. Parlons du port du masque. OK? Bon, peut-être qu'il y a quelques mois, on aurait parlé plutôt du port du voile, mais là, c'est plus pertinent de parler du port du masque. Donc, disons que Joseph, OK, on va lui donner des noms fictifs, croit qu'il doit porter un masque aussi souvent que possible pour protéger les autres autour de lui, parce que la COVID, c'est une maladie qui est dangereuse, qui est très infectieuse, qui va se propager facilement, et aussi parce que le gouvernement le recommande fortement lorsqu'on ne peut pas respecter le 2 mètres. Pour sa part, appelons-la Joséphine, OK? Elle croit que ce sont l'histoire de porter les masques et tout ça, c'est une stratégie politique du gouvernement chinois qui veut élargir son monopole économique parce qu'évidemment, il va vendre plus d'équipements de protection. Presque tous les équipements de protection qu'on utilisait ici venaient de la Chine. Donc, ils sont en train de s'en mettre plein les poches, et que c'est juste une stratégie gouvernementale, mais que c'est totalement inutile et même ridicule de porter un masque. Elle s'est aussi informée, elle sait que la COVID, ce n'est pas aussi dangereux qu'on l'avait présenté au départ. C'est deux opinions. Je ne dis pas qu'il y a un a raison, l'autre a tort, là. Deux opinions bien différentes. Donc, imaginez-vous que ces deux personnes-là sont assises, une à côté de l'autre, à 2 mètres de distance, dans la salle présentement, comment il peut y avoir une friction, une tension entre eux. Eh bien, c'est là qu'on est invité à simplement accepter que l'autre a une conviction différente, mais tout aussi valable que la nôtre. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à faire la part des choses. Mais, avec quelle attitude de cœur tu vas l'accepter? Donc, premièrement, le texte nous invite à ne pas mépriser l'autre. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Vous savez que, ben, on avait eu d'ailleurs au début, je ne sais pas si vous rappelez cette image-là, mais c'était justement une forme de mépris. La jeune fille méprisait, excusez, c'était l'autre image, méprisait le jeune homme avec sa boîte de bois sans savoir c'était quoi le but. Mais il y a un texte comme Romains 12 qu'on va voir probablement dans les prochains mois, hein, nous dit que même la mesure de foi, la foi a été départie à chacun selon la mesure que l'Esprit a accordée à chacun. Donc même ma foi, c'est un don que Dieu m'a fait. Donc, je pourrais mépriser l'autre qui a moins de foi que moi, mais ça vient de Dieu, finalement, ma foi. Alors, nous sommes tous différents dans les dons que Dieu nous a faits, mais aussi dans nos tempéraments, on est bien différents l'un de l'autre. Dans nos contextes familiaux, on est bien différents. Nos contextes culturels aussi. Aussi par notre éducation, et parce que nous vivons au quotidien. Ça fait beaucoup de différences qui vont nous faire réagir différemment à différentes situations. Donc, prenons une autre illustration par hasard comme ça. Voyons quelle illustration on pourrait prendre. OK. Disons par rapport à notre capacité de gérer le stress par rapport à la COVID-19. Comment on va gérer ce stress-là? OK. Donc, pour Joseph, okay? Lui, bon, admettons qu'il a reçu beaucoup de foi de la part du Seigneur, puis il en a juste échappé quelques gouttes quand il est passé à lui, et il y a de la misère, disons, à croire ou à ne pas s'inquiéter, malgré qu'il a écouté mon message il y a 3 semaines hein, sur « Don't worry, be happy », fait que ça l'a aidé un petit peu. Il y a de la misère à faire aveuglément confiance à Dieu. Il manque un peu de foi pour s'abandonner complètement à Dieu. Puis il trouve ça difficile dans ce contexte-là. Donc, il préfère garder les choses bien en main, prendre toutes les mesures qu'il peut lui-même et suivre les consignes à la lettre. Joséphine, elle, pour sa part, a assez placé sa confiance en Dieu. Elle sait que peu importe ce qui va arriver, c'est ce que Dieu lui-même va avoir décidé, que Dieu reste au contrôle, qui ne va pas permettre que rien n'arrive qu'il n'avait pas déjà planifié d'avance. Alors, elle dort sous ses deux oreilles et elle fait le minimum juste pour respecter les consignes et pour ne pas être badrée par les autorités gouvernementales. Quand elle voit Joseph se démener comme un forcené se protéger, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Est-ce qu'elle le méprise? Ou est-ce qu'elle respecte que sa foi n'est pas la sienne? Un jour, on a regardé un épisode, je ne sais pas si vous connaissez la série Seven Heaven. C'est un pasteur, ils sont 7 à la maison, il y a 5 enfants, les parents. Là. C'est la vie de cette famille-là. Et l'église du pasteur, non, l'église du Seigneur, dont le pasteur est l'ouvrier, passe par une précarité au niveau des finances. Et le trésorier décide de couper les fonds, je crois que c'était pour les pauvres. Donc, il coupe les dons à ces organismes-là parce qu'il a peur qu'il y ait un déficit dans les finances de l'Église pour cette année-là. Et là, le pasteur est en colère. Et même, il méprise le trésorier parce qu'il manque de foi. Et là, son épouse lui fait une réplique bien intéressante. Elle lui dit, « Tu sais, elle dit, tu ne peux pas demander au trésorier d'avoir la même foi que toi. peux pas exiger qu'il ait la même foi que toi. Et comme on a vu tout à l'heure, même la foi, Dieu nous en donne départie une quantité à chacun différente. Donc, l'Évangile qui nous a rendus enfants de Dieu nous aide à faire grâce à l'autre, à l'aimer comme nous avons nous-mêmes été aimés. Mais en plus de le mépriser, je pourrais pousser ça encore plus loin et juger mon frère. C'est ce que le verset 3b nous dit. De celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Reprenons notre exemple du port du masque de tout à l'heure. Donc, Joseph porte un masque pour être soumis aux autorités. Il regarde Joséphine, qui n'en porte pas, et dit qu'elle ne peut pas être chrétienne et être insoumise comme ça aux autorités. En la voyant tousser dans sa main, il conclut qu'elle est atteinte du virus puis qu'elle veut délibérément le transmettre à tout le monde autour d'elle. Finalement, elle est tellement méchante, cette femme-là. Donc, ça, c'est un jugement que Joseph pourrait porter sur Joséphine. Joséphine, elle, pour sa part, dit que Joseph n'a certainement pas placé sa confiance dans le Seigneur, car il a confiance davantage aux hommes pour sa protection qu'en Dieu. Okay, voyez-vous comment ça peut porter un jugement d'un côté ou de l'autre? Alors, le fait que nous ne soyons pas jugés par Dieu, qu'on n'est pas jugé par rapport à ce que nous aurions mérité, ça nous aide à pouvoir suivre l'exemple de Dieu et nous aussi d'appliquer la même non-jugement, on pourrait dire, sur les personnes autour de nous qui sont différentes. En même temps, les dons que l'Esprit nous accorde, on voit dans le texte particulièrement de Corinthiens, c'est pour l'utilité commune. Donc, si Dieu nous a donné davantage de foi, ça devrait être aussi utilisé pour l'utilité commune. Donc, si j'ai été béni et que j'ai plus de foi que mon frère, ma sœur autour de moi, certainement que je suis appelé à l'aider, à être affermi dans sa foi. Il y a plein de choses que je peux faire, partager des bénédictions, des exaucements que j'ai eus, recommander des lectures peut-être que j'ai faites, des textes, des écritures. Donc, même si le Seigneur m'a mieux équipé, le but c'est d'aider celui qui a été moins bien équipé dans ce sens-là. Le verset 1, lui, nous rappelait de faire bon accueil à cette personne-là. Donc, faire bon accueil, ça inclut aussi de ne pas le juger. Mais en plus, pour ma part, je suis appelé aussi à faire confiance à Dieu pour garder l'autre. Ça, c'est le verset 4 de notre texte. Il dit, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Je pense que je n'avais pas sonné, mais là, on a le verset dans la suivante. Donc, Paul commence par rappeler que ce frère est le serviteur de Dieu, et non pas ton serviteur à toi. Il appartient à Dieu. Je ne suis pas son maître. Celui qui le garde, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Vous voyez comment c'est subtil. Je peux avoir une grande foi pour les circonstances de ma vie, mais en même temps manquer de foi pour les circonstances de la vie de mon frère, de ma sœur autour de moi. Parce que ça prend quand même de la foi pour affirmer comme Paul que le Seigneur va le garder parce qu'il lui appartient à lui. Que le Seigneur va permettre qu'il se tienne debout finalement. Donc, pour ce qui me concerne, je peux affirmer que Dieu me garde parce que j'ai confiance même dans mes propres capacités. J'ai un contrôle là-dessus, donc là, ça passe bien. J'ai confiance, Dieu va pourvoir, puis je fais tout ce qui est en mon contrôle pour garder ça sous contrôle, évidemment. Mais je n'ai peut-être pas aussi confiance dans les capacités de mon frère ou de ma sœur, qui lui aussi peut veiller, peut rester éveillé. Hein? Donc, j'aurai confiance dans les capacités de Dieu lui-même, pour affirmer et ne jamais remettre ça en doute, que Dieu est capable d'affirmer mon frère, que toutes les promesses que Dieu lui a faites, de veiller sur lui, de le fortifier, ça va se réaliser de façon certaine, parce que c'est Dieu qui l'a promis. Et ça, c'est valable pour moi, pour ma vie, c'est valable pour la vie de mon frère aussi. Wow! Comment est-ce que Paul a pu faire pour savoir ce qu'on vivrait aujourd'hui? Hein? Puis écrire un texte comme celui-là. C'est ce qu'on appelle de contextualiser, d'appliquer un texte, et non pas, c'était pas nécessairement dans l'idée de Paul lorsqu'il l'a écrit, mais c'est des textes qui sont tellement vrais, encore aujourd'hui, et qu'on doit se rappeler, Puis, je vous rappelle que l'épître de Paul n'est pas un « fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas cela », mais Paul est en train de nous présenter son évangile, et que c'est son évangile qui nous rend capables de vivre ces cinq conséquences, finalement, de sa grâce. Mais tout cela, c'est sur la base de l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs. L'amour que Dieu a lui-même placé dans mon cœur pour eux. Cet amour qui ne fait de mal à personne, qui ne fait pas de mal au prochain. J'aime mon frère ou ma sœur, je n'ai donc pas tendance à le mépriser ou à le juger s'il y a des opinions différentes des miennes. Je vais donc être attentionné à son endroit. Je vais respecter là où il est rendu. S'il est mal à l'aise que je m'approche de lui, hein, parce que les consignes du gouvernement sont claires, de 2 mètres, je ne vais pas m'approcher de lui. Donc, il faut faire attention à ça et respecter ces différences. Les prochaines semaines vont nous demander beaucoup d'amour, beaucoup d'attention réciproque. Prenons soin les uns des autres. Respectons les consignes, parce qu'on on est contraint de le faire comme Église. Certainement, particulièrement quand on est ensemble, parce qu'on a une responsabilité sociale ici, mais aussi par respect mutuel. Ne discutons pas les opinions des autres. Si un autre a une opinion différente de la tienne, respectons-le. Respectons que c'est pas la façon que je le vois, mais c'est correct, c'est valable. C'est pas un texte des Écritures, c'est pas un péché, c'est pas une fausse doctrine. Donc, on accepte qu'on a des opinions différentes, tout simplement. Donc, oui, on peut partager de façon que nous, on l'a compris, mais restons-en là. Ne discutons pas sur les opinions. On va conclure par un mot de prière. Eh bien oui, bon Papa du ciel, on veut te remercier de ce que tu nous as fait grâce, de ce que tu nous as accueillis. Seigneur Dieu, que tu nous as accueillis inconditionnellement, malgré Seigneur, notre imperfection, malgré tout notre état, Seigneur Dieu, mais tu nous as rendus parfaits en Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as lavés. Est-ce qu'on est sur le chemin, Seigneur? Non pas qu'on est parfait aujourd'hui, mais qu'on est en train de le devenir par ton esprit. Seigneur, merci de ce que tu nous as placé aussi. Tu as placé en nous ton amour. Qu'on peut avoir cet amour pour les frères et sœurs et qu'on peut ne pas les juger, ne pas les mépriser, mais Seigneur, même être attentionné à leur endroit et jouer le ministère que tu demandes à jouer pour eux. Donc, Seigneur Dieu, aide-nous à bien le vivre, à bien vivre ce déconfinement ensemble. Et certainement, on te supplie de permettre qu'il puisse y avoir encore d'autres assouplissements, peut-être même cette semaine, qu'on puisse recommencer à être tous ensemble, sans devoir contrôler, Seigneur, les présences. Mais glorifie ton nom. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, bonne fête des pères à tous les papas, mais aussi